2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Et encore aujourd'hui, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et je me permets de lire également un texte, un verset dans Ézéchiel, chapitre 36, et juste le verset 26, où il nous est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce que Dieu est venu ou a envoyé sur terre, c'est son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre un changement. Aujourd'hui, nous désirons activement vivre des changements dans nos vies. Et plus le temps passe, plus l'actualité passe, plus nous sommes amenés à désirer vivre un changement. Et nous aimerions tellement vivre de changements dans nos vies, dans notre société, dans notre pays, dans notre terre tout entière. Nous aspirons, et certains en ont fait leur slogan, « Changement, c'est maintenant ». Je crois qu'au-delà d'un slogan d'un homme, ce que Dieu veut, c'est opérer un changement véritable, pas en superficie, pas juste de manière superficielle, mais en profondeur dans le cœur de l'homme. Dans tous les domaines, l'attente d'un changement est présente. Un changement économique, changement social, changement politique, changement familial, peut-être un changement professionnel, un changement dans ces pays qui vivent le trouble, un changement pour ceux qui ne mangent pas à leur faim, changement pour une plus grande sécurité, tellement de changements. On attend un changement et ce changement ne vient pas. Ou les quelques changements qu'il peut avoir, au final, nous apportent plus de troubles parfois que de la paix. Mais il y a un changement qui est possible. Ce changement, nous l'avons dit, ce changement qui est possible, un changement qui est réalisable, c'est le changement du cœur de l'homme. Et de ce changement dans le cœur de l'homme peut découler également d'autres changements autour de l'homme. Et nous qui, pour la plupart d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, nous pourrions témoigner que le jour où nous avons accepté de suivre Jésus, le jour où Jésus est venu opérer un changement dans notre cœur, nous avons également vu un changement dans notre vie de tous les jours, un changement dans notre entourage. Et ce que le Seigneur veut accomplir dans les vies, ce n'est pas qu'un changement qui ne se voit pas, mais c'est un changement qui est visible, c'est un changement qui se voit, c'est un changement véritable, un changement d'abord en profondeur, pour qu'ensuite ce qui se voit puisse être changé également. Et bien souvent, dans les témoignages que nous entendons très régulièrement que lorsque Jésus est entré dans les cœurs, alors il y a eu un changement. Alors je n'ai plus été la même personne. On chante parfois ce chant, « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. » C'est vrai, hein ? Quand Jésus devient le maître de notre vie, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous amener à des obligations, nous amener même des interdictions, ou nous amener à rejeter tous ceux qui étaient là autour de nous. Mais au contraire, il nous appelle à quelque chose de bien meilleur, une vie nouvelle. Il nous appelle à vivre un changement. Et nous l'avons lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu change les vies, Dieu change les cœurs. Dieu change les mentalités. Dieu change les caractères. Et oui, il change les caractères. Et j'en suis le témoin. Dieu change les aspirations. Dieu change les projets. Mais tout Ces changements nous amènent à vivre la joie, le bonheur et la paix. Et Paul, qui écrit cela, qui écrit ces paroles aux Corinthiens, en est la preuve vivante que le changement est possible. Lui qui était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église, lui, à ses pieds, on lui a amené les vêtements du premier martyr chrétien, Étienne. C'est à ses pieds. C'est lui qui a approuvé. C'est lui qui a ordonné. Et il avait comme mission d'aller rechercher tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, tous ceux qui annonçaient que Jésus était vivant. Il était celui qui respirait le meurtre, celui qui respirait la menace. Il était craint parce qu'il était violent. Et parce qu'avec lui, accompagnait la mort. Mais un jour, alors qu'il était sur une route qui le menait à la ville de Damas, le Seigneur va se révéler à lui miraculeusement. Le Seigneur va faire resplendir une grande lumière, à tel point que Paul va en être aveuglé, qu'il va tomber à terre. Et il va entendre cette voix lui parler, et qui va lui dire « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ?» Il lui dira, cette voix fera entendre aux oreilles de Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul va être confondu devant l'appel de Jésus à changer, devant l'appel de Jésus pour Paul à lui confier sa vie, parce que Jésus avait un plan pour lui, le Seigneur avait un plan pour sa vie. Et il l'appelait à autre chose que d'amener la mort, il voulait que Paul amène la vie. Et ce que Dieu a voulu pour Paul, il le veut pour chacun de nous, que nous puissions vivre la véritable vie. Et Paul va vivre un changement radical dans son être, dans son caractère, dans sa vie. Et lui qui respirait le meurtre et la menace sera lui-même persécuté, emprisonné. Et cet homme qui avait un cœur de pierre a vu son cœur changé par le miracle de Dieu en un cœur de chair, en un cœur qui a su aimer, en un cœur qui a su écouter son Seigneur, en un cœur qui l'a amené à être obéissant à la voix de Dieu. Nous l'avons lu dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu veut nous rendre sensibles, veut nous rendre sensibles à sa voix. Il veut nous rendre sensibles à ce changement qui est possible dans les vies. Alors, ce changement que Dieu veut opérer en profondeur dans nos cœurs peut avoir un impact également, et a un impact, un effet, dans tous les domaines de la vie. On le voit dans plusieurs exemples de la parole de Dieu. On le voit dans ce premier exemple, notamment avec cette femme qui était jugé, qui était mis devant le fait accompli, qui avait été trouvé en flagrant délit d'adultère. Et alors que cette femme va être attrapée, on va la mettre sur la place publique et on va vouloir la lapider selon la loi. Et cette femme qui vivait dans le péché, cette femme qui n'avait pas Dieu dans son cœur, qui n'avait pas encore connu ce changement dans sa vie, va être accusée, à raison, mais elle va être accusée. Et Jésus va être pris à partie et on va lui dire, voilà cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi nous demande de la lapider. Et toi, que dis-tu ? Et les religieux qui avaient interrogé Jésus là, sur cette situation, sur ce cas, ont fait cela pour éprouver Jésus. Et Jésus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne va pas dire grand-chose. Jésus va prendre la défense de cette femme, non qu'il va excuser son péché, mais pour rappeler plutôt que tous sont pécheurs et que personne n'a commis jamais de péché, n'a jamais commis de péché, que tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais que Jésus veut faire grâce, que Jésus est venu non pour juger, non pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour prendre la défense. Il pourra dire à la foule que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors ceux qui accusaient cette femme vont se sentir repris en eux-mêmes, dans leur conscience, et ils vont se retirer un à un. Jésus vient au secours des opprimés. Jésus est venu au secours de Fernand, alors qu'il y avait une dépression, un état suicidaire qui était là. Dieu est capable de délivrer de la dépression. Dieu est capable de délivrer de ses idées suicidaires. Dieu est capable de délivrer des mauvaises pensées dans les esprits. Dieu est capable de délivrer celui qui est sous un joug. Et la parole de Dieu nous rappelle que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et certainement que cette femme, dans son cœur, a dû crier au secours. Et Dieu entend les cris au secours. Dieu entend les SOS qu'on peut lancer, peut-être comme une bouteille à la mer, en disant et en espérant peut-être que quelqu'un puisse l'attraper et puisse avoir la force de venir à son secours. Jésus est celui qui veut attraper cette bouteille. Jésus est celui qui veut attraper ce cri de détresse. Et il est venu à la croix pour nous rappeler qu'il a tout accompli. Et qu'il a tout vaincu à la croix et qu'il est celui qui peut encore aujourd'hui nous délivrer de toutes nos détresses, de nos cris au secours. Paul pourra nous dire dans la lettre aux Romains au chapitre 8 et verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça le miracle du Seigneur. C'est que quand on accepte Jésus dans sa vie, lorsqu'on décide de vivre, c'est vrai, de laisser Jésus opérer un changement dans nos cœurs, c'est pas pour nous mettre sous un nouveau joug, c'est pas pour avoir une nouvelle condamnation sur notre vie, mais c'est pour être libéré de toute condamnation. Cette femme était sous une condamnation. Condamnation à mort, condamnation d'être lapidé. Et la parole de Dieu nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'en voulant vivre, en refusant Jésus et en restant à vivre dans le péché, on reste sous cette condamnation d'une mort, peut-être pas d'une mort physique, mais d'une mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce que propose Jésus, c'est une vie nouvelle, c'est une vie pour l'éternité. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose. Après la mort, ce n'est pas le trou noir. Après la mort, ce n'est pas une histoire qui s'arrête et puis plus rien. Après la mort, notre âme continue son existence, mais dans deux endroits différents, mais qui seront conditionnés par nos choix d'ici-bas. Et Dieu nous appelle à faire les bons choix. Alors Jésus va prendre la défense de cette femme et il va écrire de son doigt dans la terre. La parole de Dieu ne nous dit pas ce que Jésus a écrit par terre. Peut-être que ceux qui verront Jésus un jour, ceux qui seront avec lui pour l'éternité, ils iront le voir en disant « Jésus, au fait, dis-moi, un truc qui m'a chagriné, c'est que dans ce moment-là, qu'est-ce que tu as écrit par terre ?» On ira lui poser la question ensemble. Mais je ne crois pas que ce soit le plus important, le plus essentiel de savoir ce que Jésus a écrit. Certains disent peut-être que Jésus a écrit les péchés de ceux qui étaient là, qui accusaient cette femme. Peut-être que certains ont pu dire que Jésus a écrit les noms des accusateurs de cette femme. Je crois que quoi qu'il en soit, si Jésus a écrit par terre et n'a pas parlé, pour nous amener à comprendre également que ce qu'il écrit par terre, il peut l'effacer. Peut-être qu'il a écrit les péchés des hommes, peut-être qu'il a écrit les fautes de chacun. Mais Jésus nous rappelle que s'il veut prendre la défense de cette femme, ce qu'il écrit par terre, peut-être qu'il va reprendre ceux qui accusaient cette femme, il veut l'effacer aussi. Il est capable de l'effacer. Il est capable de tout effacer. Et lorsque Jésus fait un changement dans une vie, lorsque Jésus opère un changement dans un cœur, lorsqu'il pardonne les péchés pour un homme, pour une femme, pour plusieurs, il efface. Il ne met pas seulement de côté. En nous ressortant la petite fiche, lorsqu'on rechute et qu'on dit « Ah, je me rappelle là, en 2015, en novembre, tu as fait ça. » Non, ça c'est nous, ça. Ça c'est l'homme. Jésus, quand il efface, il efface et il oublie. Il ne revient pas sur nos fautes. Si on demande pardon avec un cœur sincère, Jésus efface. Et c'est ça le changement véritable. C'est ça cette vie nouvelle. Nous sommes des nouvelles créations parce que nous repartons avec un cœur tout neuf. Avec un cœur transformé, un cœur changé. Et c'est ce changement que Dieu veut opérer dans chacune de notre vie. C'est ce changement que Dieu veut opérer dans votre vie. Alors, n'attendez plus. Et si dans votre cœur il y a cet appel au secours, ce désir de vivre un changement, ne nous tournons pas, ne vous tournez pas vers les choses de ce monde parce qu'on voit bien qu'au final, peu de choses changent et qu'on attend toujours des changements. Mais le vrai changement, il est en Jésus-Christ. Jésus a eu compassion pour cette femme et Jésus a compassion pour chacun de nous. Et puis, si Dieu, le Seigneur, veut opérer un changement dans les cœurs, il veut aussi opérer un changement dans les corps. S'il est celui qui pardonne les péchés, il est aussi celui qui peut guérir. Alors que je m'étais éloigné du Seigneur, j'ai été atteint de sourdité et je ne devais plus pouvoir entendre correctement, parfaitement, mais le Seigneur m'a guéri. Et je crois que plusieurs au milieu de nous, cet après-midi, pourraient témoigner de ce que Jésus guérit miraculeusement. Et nous croyons dans la guérison divine. Nous croyons dans l'efficacité de la prière et nous croyons qu'en imposant les mains aux malades, les malades sont guéris. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, nous voyons cet exemple de ces 10 lépreux qui viendront vers Jésus. Et cette maladie incurable qui rongeait leur corps, ils vont venir au loin et interpelleront Jésus en leur disant, en lui disant, mais aie pitié de nous. Et Jésus n'a pas eu besoin d'être convaincu d'agir. Il avait bien compris ce que ces hommes étaient venus chercher auprès de Jésus. Et il nous est dit que dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parole extraordinaire de Jésus quand même. Parce que Jésus ne leur dit pas, allez vous montrer au sacrificateur et vous serez guéris. Il ne leur fait pas une promesse. Il leur dit juste, allez vous montrer au sacrificateur. Et ces 10 hommes vont le faire. Ils vont obéir. Et ils vont aller voir les sacrificateurs. Et alors qu'ils étaient en chemin, ils vont s'apercevoir qu'ils vont être guéris. Et Jésus est celui qui voit si dans nos cœurs, nous voulons obéir à sa voix. Et si nous obéissons à sa voix, il est celui qui peut guérir nos corps. Il est celui qui peut guérir de toute maladie, même les plus incurables. Alors le happy end de cette histoire aurait été peut-être que les 10 reviennent au Seigneur, reviennent pour remercier le Seigneur, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Et il nous est dit que se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Cet homme ne s'est pas arrêté seulement à une guérison. Et Jésus veut guérir, mais ce que Jésus veut d'abord faire, c'est sauver. Ce que Dieu veut d'abord opérer comme miracle, c'est d'abord changement du cœur. Et même s'il veut aussi faire un changement dans le corps. Mais Jésus est venu, c'est vrai, pour guérir, mais d'abord pour sauver. Et cet homme a pris conscience que Jésus, que c'était sur la parole de Jésus qu'il était parti et que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et il a voulu retourner à Jésus pour lui dire merci, pour se jeter à ses pieds. Et en retournant vers Jésus, il glorifiait Dieu à haute voix. Et le changement que Dieu a opéré dans le corps de cet homme, tout le monde l'a entendu. Il glorifiait Dieu et tout le monde a pu le voir de sa peau qui a été purifiée. Et lorsque Dieu opère un changement, c'est un changement qui se voit et qui doit s'entendre aussi. Et cela nous appelle à témoigner. Merci mon frère d'avoir témoigné, même si tu n'étais pas prévenu. Mais on doit toujours être prêt à témoigner. toujours être prêt à glorifier Dieu de ce qu'il accomplit. Parce qu'il y en a tellement qui ont besoin d'entendre ces paroles de réconfort, qu'il y a bien quelqu'un qui écoute, qui entend les prières, qui entend les cris et qui veut agir. Cet homme est revenu à Jésus. Il s'est humilié devant Jésus. Il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Et Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Encore une fois, Jésus va relever. Il a relevé cette femme qui était là par terre, qui n'avait même pas remarqué que ceux qui l'accusaient étaient partis. Jésus va relever cet homme également. Parce que Jésus ne veut pas nous laisser accabler. Il ne veut pas vous laisser accabler, mais il veut vous relever. Il veut vous encourager. Il veut vous amener à continuer à marcher, mais à marcher différemment, à marcher avec le Seigneur, à marcher avec ce changement véritable dans le cœur. Oui, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres. Ce ne sont pas ce que l'on pourrait donner dans un tronc. Ce n'est pas les chemins, les parcours à pieds nus ou en voiture, je ne sais pas encore. Toutes les choses qu'on pourrait faire, ce n'est pas tout cela qui pourra nous sauver. Cela me rappelle l'expérience que Naaman a pu faire, un lépreux également. Il va aller voir le prophète et le prophète va lui dire « va te laver cette fois dans le Jourdain ». Et puis il va s'en repartir en colère parce qu'il s'attendait à quelque chose de difficile. Et parfois on croit qu'on sera sauvé par quelque chose d'ultra compliqué. C'est notre esprit qui complique tout en fait. Et ses serviteurs ont été inspirés d'aller voir leur maître Naaman et de leur dire « mais si il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait ?» Alors à combien plus forte raison, s'il te demande de faire quelque chose de simple, de facile, fais-le. Et sur ces paroles, il va le faire et il va être guéri. Alors au lieu d'essayer de faire des choses compliquées et d'essayer par nos propres moyens de nous sauver, par nos propres œuvres de nous sauver, simplement d'ouvrir son cœur au Seigneur et d'accepter que Jésus est celui qui peut opérer tout seul le changement dans nos vies. Nous n'avons rien à faire que d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Nous n'avons rien à faire que de dire au Seigneur, change ma vie, change mon cœur, change ma mentalité, change-moi en profondeur, change mon corps également, guéris-moi, transforme-moi. Et Jésus est celui qui peut opérer ce miracle. Si on essaye de se changer par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Mais Jésus est celui qui peut arriver et qui arrivera et qui arrive à opérer ces changements miraculeux dans les cœurs. C'est ce qu'il a fait pour cet homme. Et puis, les changements que Dieu veut faire dans les vies, c'est surtout un changement qui a une portée éternelle. Lorsque Jésus va à la croix, il est accompagné de deux hommes, deux brigands, qui eux méritent leur châtiment, qui eux méritent de mourir sur une croix parce qu'ils ont été mauvais une grande partie de leur vie. Ils ont été de ceux qui ont transgressé les lois, etc. Ils ont fait tellement de choses mauvaises. Ils le reconnaîtront. Enfin, l'un d'eux les reconnaîtra. Et lorsqu'on lit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27 et 44, il nous est dit que les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Et on oublie parfois également que le brigand repentant, avant d'être repentant, il injuriait aussi Jésus. Combien de fois avons-nous rejeté Jésus ? Peut-être l'avons même injurié. Devant les difficultés de nos vies, devant tout ce qu'il y a dans nos cœurs, devant toutes les situations de la vie qui sont tellement difficiles, alors on dresse le poing contre Dieu et on se dit « mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout cela ». Mais tout ce que nous pouvons vivre dans nos vies sont les conséquences de nos cœurs tortueux. Parce que Dieu nous appelle à vivre une vie différente. Dieu veut opérer un changement. Et alors qu'ils sont là sur cette croix, tous vont voir, et les brigands également, à côté de Jésus, vont voir les souffrances. Ils vont vivre des souffrances également. Mais ils vont voir combien Jésus, lui, il aura été avant fouetté, lynché. On leur a craché dessus. Lui aura tiré la barbe, On lui aura mis sur sa tête une couronne d'épines. Ce n'est pas les petites ronces hein, de la forêt d'à côté. Hein. C'est des épines de plusieurs centimètres qui s'enfonçaient dans la boîte crânienne. Quel miracle de Jésus à la croix. Lui qui a eu que des paroles d'amour sur la croix pour ceux qui le crucifiaient. Il implorera même son Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le prophète Ésaïe aura pu dire, et c'est ce que le nuque éthiopien lisait dans son char qu'on a pu voir ce matin. Ésaïe a pu dire au chapitre 53 et à partir du verset 4, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus a accepté de vivre tout cela par amour. Pour chacun de nous, par amour pour vous et ses souffrances vécues à la croix. Il les a supportées pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation, pour que nous n'ayons pas à vivre ce châtiment, mais pour que nous puissions vivre un véritable changement dans nos cœurs, un véritable changement dans nos corps, un véritable changement dans tout notre être. Un véritable changement qui a une portée éternelle. Et sur la croix, le brigand, un des deux brigands, va prendre conscience de ce que Jésus supporte et que c'est injuste qu'il supporte tout cela parce que lui, il était juste. Et il va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Et Jésus pourra lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est notre choix sur terre qui nous amènera à vivre ou pas dans le paradis avec le Seigneur. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire qui nous permet de racheter quoi que ce soit. Notre choix sur terre est primordial. Alors n'attendons pas le dernier moment comme le brigand a pu le faire. Peut-être que certains se disent, mais moi j'attends le dernier moment et puis lorsque ça, je serai à l'extrémité, à la limite, alors je donnerai mon cœur au Seigneur. Peut-être. Mais sur les deux brigands qui étaient à l'extrémité, il n'y en a qu'un qui a donné son cœur. Il y en a un, il est resté dur. Il a gardé son cœur de pierre. Et puis, qui sait quand il quittera cette terre. Et nous l'avons vu encore dans notre pays. Qui sait de quoi demain sera fait ? Et nous avons besoin, sans tarder, de choisir la vie afin de vivre pour l'éternité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, mais laissez Dieu transformer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Le changement que Jésus opère est un changement en profondeur et pas un changement superficiel, pas un changement à la légère, c'est un changement véritable. Un changement qui nous appelle à ne plus vivre dans le péché. Cette femme qui était accusée d'adultère, Jésus va lui pardonner mais lui dira « Va, mais ne pêche plus ». Alors on sera toujours des pécheurs parce que nous sommes de nature pécheresse. Mais ce que Jésus demande à cette femme, c'est de ne plus pécher parce que cela nous est impossible. Mais ne vis plus dans le péché. Ne recherche plus à vivre dans le péché. Ne fais plus de compromis avec le péché. Mais laisse Jésus prendre toute la place dans ta vie. Laisse ma présence inonder ton cœur. Laisse ma parole guider ta vie, guider tes choix. Il change les vies en profondeur, mais il est capable également de guérir. Il est capable de guérir. Et la priorité, même si ce n'est pas la guérison, c'est de sauver, mais Dieu peut guérir. Et nous, plusieurs pourraient en témoigner. Et ce changement que Jésus veut opérer aujourd'hui, dans votre cœur, c'est un changement qui a une portée éternelle. Considère ta vie, mais considère également l'œuvre de Jésus à la croix. Ne repars pas de ce lieu sans avoir vécu ce changement véritable. Ne repartez pas de ce lieu comme vous êtes rentré, mais repartez de ce lieu en ayant pris la décision de laisser le Seigneur changer votre vie. Ce n'est pas une religion qui changera quoi que ce soit. Le seul qui peut changer, c'est le Seigneur Jésus. C'est le seul qui peut vous changer et qui peut vous amener à vivre dans la joie, dans la paix, et ce pour l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. Ferme les yeux un moment. Seigneur, merci parce que tu es venu à la croix pour changer l'humanité, pour changer, Seigneur, la destinée de beaucoup. Nous qui étions destinés à la mort éternelle, nous qui étions destinés à vivre les souffrances de la mort pour l'éternité, nous qui étions destinés, à cause de notre nature pécheresse, à vivre dans les pleurs, dans les grincements de dents, dans les gémissements pour l'éternité. Seigneur, tu as accepté de donner ta vie en rançon et de supporter le châtiment qui nous était réservé afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, merci parce que dans l'œuvre de la croix, il n'y a rien à rajouter. Tout a été accompli et tu l'as dit sur la croix. Et Seigneur, ton œuvre, elle est parfaite, que ce soit pour les âmes, pour les esprits, pour les corps, pour les cœurs. Seigneur, l'œuvre de la croix est toute puissante pour guérir, pour délivrer et pour sauver.